Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jean Castarède, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, auteur d'une trentaine d'ouvrages, éditeur chez France Empire. Parmi les ouvrages que vous avez réalisés, plusieurs sur le luxe, Histoire du luxe en France, des origines à nos jours, le luxe, collection Que sais-je, aux éditions des presses universitaires de France, et le dernier qui nous intéresse, Luxe et civilisation, paru chez Erol en novembre 2008. Alors, votre ouvrage est organisé de manière chronologique, de la civilisation des Sumériens aux briques, comprenez Brésil, Russie, Inde, Chine, pays émergents où le luxe est encore plus présent. Nous ne pourrons bien sûr pas traiter la totalité de votre ouvrage, riche en informations, et nous invitons bien sûr nos internautes à consulter votre livre. Nous passerons, nous, sur un mode continental, si vous le voulez bien. Nous irons en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Mais nous allons commencer, si vous le voulez bien, par ce que l'on appelle le croissant fertile, carrefour de plusieurs civilisations, à savoir les Sumériens, les Assyriens et les Perses. Avant d'aborder ce fameux croissant fertile, Jean Castarède, pourquoi parler du luxe? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce domaine-là?
Parce que j'ai constaté qu'à chaque tournant de civilisation, il y avait une invention luxueuse. Et c'est quelque chose qui, je crois, n'a jamais été beaucoup souligné. Je me souviens d'ailleurs d'en avoir parlé un jour avec un homme pour qui j'avais une très grande admiration, bien que je ne le côtoie pas constamment, c'était André Malraux. Et un jour, nous avions esquissé ensemble, car à ce moment-là, j'étais directeur à la télévision, on avait un projet de lui faire faire une grande fresque historique pour les téléspectateurs et de le promener dans le monde entier pour, comme ça, un tout petit peu passer en revue les grands sites du monde. Il m'en avait fait la remarque en me disant « Mais vous savez, chaque époque, chaque civilisation s'est traduite par une invention luxueuse. » Et ça m'est un petit peu resté dans la tête. Et du coup, je me suis dit que peut-être il fallait approfondir cette idée. Et bien, ça va être très immodeste de ma part, mais je crois que ça n'a jamais été fait avant moi. Ça a été fait au XIXe siècle par un auteur qui s'appelle M. Baudrillard, qui a écrit 4 tomes de l'histoire du luxe, qui est un homme très érudit, ce que je suis moins que lui. Mais en même temps, ça m'a rassuré, parce que quand j'ai lu ces 4 tomes, je me suis dit que, en tout cas pour toute la période antérieure au XIXe siècle, je risquais de ne pas trop me tromper, et si j'avais des trous, au moins de pouvoir les combler grâce à la lecture de ce livre. Donc, pour répondre à votre question, et je m'excuse d'avoir été un petit peu long, c'est parce que, pour moi, chaque civilisation est liée au luxe, et d'ailleurs, les civilisations sont nées par le luxe, avec le luxe.
Alors, commençons, si vous le voulez bien, par les Sumériens. Est-ce que le luxe naît avec cette civilisation parce que le commerce se développe, les échanges commerciaux?
Oui, enfin, dans ce livre, Luxe et civilisation, le premier chapitre concerne Babylone donc et Sumer. Alors Sumer, ça fait un petit peu rêver. Vous savez qu'il y avait un grand homme politique qui s'appelait Edgar Faure, qui sur la fin de sa vie s'était passionné pour l'art sumérien et la civilisation sumérienne, à telle enseigne qu'il ne pouvait pas faire un exposé, y compris quand il faisait des discours politiques, sans se référer aux dieux sumériens, etc. Ce qui est assez facile parce que d'abord on n'a pas beaucoup de traces et on peut aussi inventer des anecdotes. En plus, c'est une religion très, très pittoresque et par conséquent, elle peut nous donner lieu à des tas de digressions. Alors, c'est quand même pas vrai que le luxe est né avec Sumer, puisque le luxe, il est né avec une première invention, qui est l'invention du feu. Et l'invention du feu a donné la cuisine, et ensuite, le luxe, il est né avec les gravures rupestres que l'on retrouve dans nos fameuses grottes périgourdines. Donc là, c'est les deux grandes créations luxueuses, et il y en a quand même une troisième, qui est la petite statuette de la dame de Brassempouille, que l'on trouve au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui mesure 15 cm de haut, qui est faite d'ivoire de mammouth et qui est la première figurine représentant une tête de femme et en même temps une tête luxueuse, parce que c'est quand même un peu... Ça nous interpelle beaucoup de savoir que la première représentation de la figure féminine, c'est une personne dont on ne voit que les tresses dans les cheveux. Donc ça veut dire que déjà, il y a 30 000 ans, puisque ça date à peu près d'il y a 30 000 ans, les jeunes femmes ou les jeunes filles passaient beaucoup de temps pour se peigner, se coiffer, se présenter. Donc c'est le premier acte luxueux de l'humanité et c'est une figure féminine qui nous le rappelle. Donc l'invention, c'est ça, ce sont ces trois choses. Ce sont les gravures, le feu et la figurine de ce qu'on appelle la dame à la capuche. Alors, Sumer, effectivement, on commence à rentrer dans le détail avec Sumer, parce que Sumer est une civilisation sur laquelle on a tout de même beaucoup d'informations, et puis c'est une civilisation qui a tout inventé.
Je croyais justement qu'on avait assez peu de traces de cette civilisation.
Oui,
justement, il était difficile de savoir.
On a peu de traces, mais on a beaucoup écrit. On n'a plus de traces en France, d'ailleurs. C'est assez bizarre de voir que c'est plutôt les Anglais qui se sont spécialisés dans cette région du monde. Ce qui est un peu normal, parce que c'est l'Irak. Et comme vous le savez, les Anglais étaient plus implantés en Irak que ne l'étaient les Français. Et c'est au British Museum que l'on trouve. Et ils ont ramené néanmoins des tas de tablettes. Ensuite, on ne savait pas très bien décrypter l'écriture sumérienne, qui est une écriture très particulière. Ils ont inventé l'écriture. Ils ont surtout inventé une chose qu'on oublie très souvent. Ils ont inventé le droit, le système juridique et la comptabilité. La comptabilité arrive directement de ce qu'on appelle le code d'Hammurabi.
Oui, j'allais dire votre référence à Hammurabi.
Et ce code d'Hammurabi est véritablement une invention fabuleuse, puisque c'est déjà la comptabilité en partie double, c'est déjà la notion d'amortissement qu'on a mis beaucoup de temps à réintroduire dans nos pratiques commerciales. Donc, c'est quand même très fabuleux. Enfin, c'est Sumer qui a inventé des tas de choses. Bien sûr, les jardins, Et les constructions à partir des briquettes. Alors pourquoi dans cette région? Parce qu'il y avait de la richesse. C'était considéré comme le paradis terrestre. C'était la Mésopotamie entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et c'était sûrement, alors on parle du réchauffement de la planète, je pense qu'à cette époque, la planète était beaucoup plus chaude parce que c'était à la fois un pays beaucoup plus fertile et où il y avait davantage de possibilités de faire de la culture.
Alors comment on explique le fait que cette civilisation se soit éteinte? Je fais référence dans votre ouvrage justement au passage de la Bible où pour les Juifs, Babylone était considérée comme un lieu de dépravation qui pouvait expliquer à terme la mort de cette civilisation. Est-ce que le luxe en fait dans l'excès est une petite mort d'une civilisation ou d'une autre?
Là, vous posez sans doute la seule question importante de la problématique du luxe. Est-ce que le luxe est facteur de progrès et de civilisation? Je le crois par les biens qu'il entraîne, la possibilité de multiplier les activités humaines et de créer une certaine émulation. Mais je pense qu'il y a dans le luxe des racines du mal, il y a des racines des excès. Et bon, on ne va pas faire un peu de philosophie sur ce qui se passe en ce moment, mais nous vivons très exactement un tournant sans doute d'excès de luxe par la folie des chiffres, des placements financiers. Et c'est vrai que l'homme a sûrement en lui un grain de folie et d'excès qui fait ce qu'on appelait chez les Grecs l'hubris, qui fait que de temps en temps, il n'arrive pas à se maîtriser quand il a des conquêtes de ce type. Et le luxe est sûrement une des tentations pour la décadence.
même si le luxe et l'organisation dont vous parliez avec Hammurabi, par exemple, l'organisation d'une société, luxe et organisation vont de pair.
Oui, il y a les deux. Enfin, c'est toujours ce qu'on appelle la langue d'Ésope, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. C'est toujours la façon dont on se sert des découvertes, des instruments, qui peut aboutir à des dépravations, à des dérives, à des excès. Mais le luxe porte quand même en lui un ferment tentateur plus fort que d'autres activités. Par exemple, si vous me parliez de la prière, je ne pense pas que la prière peut amener quelquefois un peu de folie, de refermement sur soi, etc. Et peut-être également, oui, des certaines formes d'excès, sans doute moins que le luxe, sans doute moins que l'art, qui lui est en principe dénué de ce genre de scorie. Enfin, voilà, si on prend toutes les activités humaines, chaque fois qu'il y a des excès, c'est répréhensible, c'est bannissable, mais les excès dans le luxe sont plus courants que les excès dans toute autre activité humaine.
Alors, avançons, si vous le voulez bien, nous étions avec les Sumériens, nous passons aux Assyriens. Dans votre ouvrage, vous précisez qu'on y trouve, avec les Assyriens, quatre principales composantes du luxe, qui sont donc les vêtements, les ornements, le parfum, et la nourriture. La nourriture, Jean Castared, est-elle
une composante du luxe? Oui, oui, non, mais ça, absolument, merci. Absolument. Alors, pourquoi les Assyriens sont un des tournants du luxe? C'est parce que, comme vous le disiez, Babylone, Sumer, on confond un petit peu tout. Les Assyriens sont une invasion d'un peuple qui est intervenu entre 900 et 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire finalement une époque qui est relativement récente. Nous côtoyons la civilisation grecque, puisqu'elle elle date de 600, et nous sommes très près, enfin en tout cas au cœur de la civilisation égyptienne, donc nous sommes très très proches de nous. Les Assyriens sont en fait le peuple qui a hérité de toutes les découvertes des Sumériens et de Babylone. Alors simplement, leur capitale était plutôt Ninive que Babylone. Ensuite, ils ont créé, enfin, été les rois de ces quatre secteurs que vous venez d'évoquer, dont la nourriture, qui est un des ferments, une des bases du luxe, ça ne fait aucun doute. Je considère qu'il y a 12 secteurs du luxe, je ne vais pas les passer en revue, mais parmi les 12 secteurs, la nourriture et les vins et les boissons, ce sont deux des secteurs très importants du luxe.
Et vous citez Zoroastre qui prêche un mode de vie fondé sur le luxe, alors que justement on pourrait s'attendre à une certaine moralité, quelque chose de rigide, pas du tout.
Non, parce que, si vous voulez, on n'a pas assez d'éléments, parce que je ne suis pas sûr qu'on sache très exactement comment ces gens vivaient et quelles étaient leurs conceptions de la vie, mais on a l'impression qu'il y a des clivages entre, d'un côté, les gens qui méditent, qui pensent, et puis de l'autre, les gens qui sont des viveurs. Bon, on cite aussi toujours, dans un autre domaine, le roi Salomon. Le roi Salomon, la première des choses qu'il fait, c'est de faire venir à sa cour la reine de Saba, alors qu'elle était vraiment une très très grande courtisane. Donc on se dit que même s'il avait une certaine rigueur de pensée, bon, il a eu aussi une vie un peu particulière, mais enfin, il fait venir une reine qui vient de plusieurs milliers de kilomètres au sud. Et pourquoi? Parce qu'il découvre que c'est une de ses cousines, qu'ils descendent tous de la même tribu. Ils remontent donc à Abraham. Et on lui dit, y a une personne qui mène une vie un peu dissolue, qui est la reine de Saba. Il la fait venir et il veut à tout prix la découvrir. Donc, je pense que, si vous voulez, ces gens mélangeaient pratiquement la rigueur, la jouissance, le plaisir, l'art de vivre, que l'on retrouve d'ailleurs dans des textes sacrés. Quand vous lisez le Cantique des Cantiques, vous apercevez qu'il n'y a pas de texte à la limite plus érotique. Donc je pense que les philosophes de l'époque n'étaient pas forcément des ascètes.
Passons aux Égyptiens, si vous le voulez bien, Jean Castarel. Bien sûr, comment ne pas parler de l'Égypte dans ce livre « Luxe et civilisation » où on a tous en image ces masques funéraires revêtus d'or. C'est une époque récente où il y a du développement du commerce qui, là aussi, favorise le luxe, puisque j'imagine que pour aller chercher des épices, pour aller chercher des pierres précieuses ou de l'or, il faut se déplacer.
Oui, bon, des personnes beaucoup plus qualifiées que moi peuvent parler de la civilisation égyptienne, parce que, comme je le dis, le luxe est très lié à la civilisation. Donc, à partir du moment où on parle de ce sujet, il faudrait faire toute une théorie sur la civilisation égyptienne, ce que on n'a pas le temps de faire, et je n'ai peut-être pas tous les éléments non plus. Là encore, deux constatations très claires. Premièrement, il y a une richesse à cause d'un fleuve qui est le Nil, et donc une qualité de vie et une aisance tout à fait exceptionnelle, puisque bon, la crue du Nil fait qu'on a les récoltes comme on veut. Et la deuxième caractéristique, qui n'est pas liée au luxe, mais qui est sans doute liée au fait que cette civilisation va durer plusieurs milliers d'années, c'est l'organisation. L'organisation, la rigueur. Que, bon, si vous m'interrogez sur d'autres civilisations comme par exemple les Incas n'ont pas réussi à percer dans l'histoire de l'humanité parce que justement il n'y a pas eu ce style d'organisation. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient nomades? C'est d'ailleurs en particulier la caractéristique des nomades. Quand un peuple est nomade, il n'arrive pas à émerger comme civilisation et comme luxe. Tandis que l'Égypte, ça a été exceptionnel à cet égard, avec sûrement un système assez autoritaire, avec des injustices là aussi, parce que rappelez-vous, quand on construit les pyramides, il y a des milliers d'hommes, voire de femmes, que l'on a servi pour transporter des pierres et pour construire ces monuments, et ces monuments qui resteront quand même comme le sommet de l'humanité. Donc, l'Égypte, à cet égard, est tout à fait exemplaire. D'ailleurs, il y a très très peu de civilisations qui ont duré aussi longtemps que l'Égypte. Je crois même qu'elle a le record absolu.
Bien sûr, on a en tête les bijoux. Les arts de la table, vous en parlez, c'est peut-être ce à quoi on ne pense pas forcément, mais vous nous en avez parlé précédemment avec les Assyriens, donc on n'en parle pas. En revanche, vous parlez des parfums et de leur vertu thérapeutique, mais aussi de leur vertu apaisante et enivrante, je vous cite, au service de la religion et de la séduction. Le parfum est aussi une composante du luxe très présente chez les Égyptiens.
Oui. D'abord, les cinq composantes du luxe, c'est les cinq sens. Alors, on a parlé de la nourriture tout à l'heure, donc on a dit le goût. Mais alors, l'odorat, sans doute en premier. C'est la première des choses. En plus, comme vous le savez, tout ceci est lié à la séduction, parce que le luxe est très lié à la séduction, et le parfum à cause des phéromones, enfin de produits comme ça un petit peu mystérieux qui sont sécrétés dans le corps, font que tout ce qui est sexuel, qui est lié au luxe éminemment, est forcément lié au parfum. Et c'est l'Égypte qui a été à l'origine de ce genre de découverte, et par conséquent, c'est elle qui nous a apporté cette composante luxueuse qu'est l'art de la parfumerie.
Et vous précisez dans votre ouvrage que le nez, le hiéroglyphe nez, caractérise justement tout ce qui a trait à la joie dans les textes
oui.
égyptiens.
Oui, c'est très bizarre de penser que le summum, ce qui est considéré comme l'idéal d'une vie, c'est-à-dire le bonheur, que soit le synonyme du mot nez, puisque c'est le même hiéroglyphe. C'est unique dans, je crois, l'histoire de l'humanité.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous voulez bien, Jean Castarède. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Le graveur Pierre-Yves Trémois, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient pour Canal Academy sur sa rencontre entre le clown blanc Pippo et le réalisateur Federico Fellini. De cette amitié naîtra un livre consacré au clown, illustré par Pierre-Yves Trémois et incluant un texte du réalisateur italien. Découvrez sans plus tarder ce témoignage unique dans notre émission Carrefour des Arts, une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en compagnie de Jean Castared, nous poursuivons sur le luxe et les civilisations, qui est donc le titre de votre ouvrage paru en novembre 2008 aux éditions Erol. Poursuivons, si vous le voulez bien, par l'Afrique et commençons par l'islam. Vous parlez du luxe musulman comme un art de vivre amical et nonchalant où l'hospitalité et l'accueil de l'étranger étaient rois. Et vous précisez que dans la vision islamique, l'un des sommets du raffinement social est exprimé par la pudeur. Autrement dit, à rien à voir avec l'image que l'on peut avoir aujourd'hui du luxe, un peu clinquant.
Oui, c'est vrai. D'abord, là encore, il y a plusieurs époques. Juste une petite remarque, l'islam n'est pas lié à l'Afrique. Aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans en Afrique, mais n'oubliez pas que l'islam, il est né au Moyen-Orient, il est né en Asie. Et l'islam, il faut le rappeler, c'est tout de même une invention religieuse qui date de 700 et des poussières par un prophète qui s'appelait Mahomet, qui a inventé cette religion. Et qui, à partir de cette religion, a eu un succès phénoménal. Je crois même, sans doute, il n'y a pas eu de précédent au monde, à tel point qu'il a envahi presque la moitié de l'humanité, puisqu'il a envahi à la fois tout le pourtour méditerranéen, l'Afrique, vous le rappelez, et une très grande partie de l'Asie. Donc, pendant 5 siècles, l'islam a eu l'ambition et a failli dominer complètement le monde. Et il faut s'en souvenir aujourd'hui parce que c'est sûrement très important dans le subconscient des événements que nous vivons. Alors, l'islam, c'est vrai que c'est une civilisation qui a des côtés extraordinairement raffinés. Je crois que c'est le mot qu'il faut employer. Et quand on dit raffinement, il y a maîtrise de soi, il y a pudeur, il y a respect des autres, et il y a aussi accueil, échange, puisque l'islam a le culte de l'hospitalité, le culte du confort. C'est une grande civilisation. C'est vrai que pendant 5 siècles après sa domination, l'islam a eu tendance à avoir peut-être des déformations et qu'aujourd'hui, on a des caricatures. En même temps que je vous le rappelle, par certains côtés, puisque tout ce que nous connaissons sur Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie, etc., qui essayent de reconstruire des musées, le Louvre, la Sorbonne, etc., qui redécouvrent, comme au temps d'Averroès, qui était, je vous rappelle, un très très grand philosophe hispanique, mais islamique, tout se retrouve aujourd'hui dans la quintessence d'une certaine excellence. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas mettre des étiquettes un peu stéréotypées sur ce que peut être le luxe ou la civilisation islamique.
En tout cas, c'est une vision différente du luxe que, par rapport à celle des visions qu'on en a abordées jusqu'à présent.
Oui, c'est vrai, mais quand on a créé les cathédrales, c'était aussi une vision peut-être un peu exaltée, mais ce sont des créations elles-mêmes très rigoureuses, très belles, et qui sont au service du sacré. Donc il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le parallèle, c'est le luxe médiéval de la France, c'est-à-dire celui des abbayes et de la prière et de la culture, puisque les abbés étaient des gens qui, en fait, retraduisaient sur les écrits tous les éléments qu'ils apprenaient, de l'accueil, puisque les abbayes étaient de l'hospitalité, de la culture, puisqu'ils cultivaient tous les produits, y compris les vignobles et les boissons, y compris les boissons alcoolisées. Et là, je reviens, parce que tout ça est très, très, très subtil et très mystérieux. Ce sont les Arabes qui nous ont appris, c'est-à-dire les musulmans, qui nous ont appris l'alcool.
L'alambic, oui.
L'alambic et l'alcool. Bon, et aujourd'hui, on dit que ce n'est pas exactement cohérent avec leur style de vie. Bon, et en même temps, les moines faisaient de la bénédictine. Tout ça se répond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se méfier de faire des catalogues en disant le luxe est blâmable, le luxe doit être et ceci parce qu'il est excessif, il est clinquant, il est trop, il y a trop de choses extérieures, alors que dans le luxe il y a toutes les composantes. Et encore une fois, le pire est le meilleur.
La sieste aussi est-elle un luxe? Je vous pose la question puisque vous en parlez dans votre livre sur ce luxe de prendre son temps. Est-ce qu'on est plus dans l'ordre...
Enfin, de toute façon, tout le monde considère que la sieste est un bon repos. Je me souviens d'ailleurs, depuis qu'un jour, un président de la République avait réuni un certain nombre de grands penseurs du monde entier pour essayer d'établir les règles de vie et quels étaient les conseils à donner aux hommes pour qu'ils aient un équilibre humain. Et on avait dit, il y a des choses très simples, y compris, pour tout ce qui est l'hygiène, ça c'est évident, mais y compris savoir se reposer, faire la sieste. Mais il faut dire qu'il s'agit à ce moment-là de pays chauds où je pense que la sieste à ce moment-là est presque une nécessité. Bon, alors, je ne pense pas que dans nos pays qui sont plus tempérés, on puisse considérer que la sieste est nécessaire. Mais enfin, dans les pays chauds, je pense qu'elle est nécessaire.
Jean Castarède, venons-en, si vous le voulez bien, à l'Afrique noire. Pour démarrer sur ce chapitre de l'Afrique, vous citez André Malraux et Claude Lévi-Strauss. Alors, je vais vous citer, vous qui citez vous-même André Malraux et Claude Lévi-Strauss. André Malraux écrivit dans son Musée imaginaire de la sculpture mondiale que les arts africains étaient hors de l'histoire. Claude Lévi-Strauss contredit légèrement cette affirmation en indiquant que c'était la lenteur de l'histoire du continent africain qui donnait aux Occidentaux habitués au mouvement rapide cette impression d'absence, alors qu'il s'agit d'une différence d'appréciation de la notion du temps. Autrement dit, est-ce que le luxe est appréciable selon la société où nous sommes ?
Oui, si vous voulez, l'Afrique a un développement très spécifique. Bon, d'abord, on parlait tout à l'heure des considérations atmosphériques. C'est un pays qui a l'avantage de la chaleur, mais aussi l'inconvénient. Il y a des parties de l'Afrique qui sont véritablement très difficiles, où il est très difficile de vivre à cause de ces excès de chaleur. Ça donne au rythme de vie davantage de lenteur, ça donne en même temps un esprit, une philosophie très différente. Et c'est vrai que nous, Occidentaux, on a quelquefois un tout petit peu de mal à mesurer les progrès, les résultats, les réussites, les créations artistiques à l'aune de notre pensée logique qui, par définition, est rapide, a le sens de la chronologie, de l'immédiateté, alors que pour un Africain, tout ceci n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Et si j'ose dire, dans leur gène, parce que, au fond, moi qui vais très souvent en Afrique, je m'aperçois que le culte du résultat pour les Africains n'est pas très important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on essaye de faire les choses, qu'il y ait des bonnes relations entre les individus, parce que après tout, la nature les a pourvus finalement d'une nourriture suffisante. Ils n'ont pas tellement besoin de se protéger des intempéries, sauf encore une fois des endroits très excessifs. C'est peut-être une forme de paradis terrestre et donc ça vous donne une philosophie de la vie très différente. Donc cette notion du temps, elle est totalement différente et l'opposition effectivement entre Malraux et Lévi-Strauss est très très vraie. Enfin, il ne faut pas raisonner de la même manière.
Les traces du luxe sont-elles plus difficiles à trouver en Afrique ? Je vous pose la question puisque vous parlez de cette absence d'écriture. C'est la tradition de l'oralité en Afrique. Les sources archéologiques certainement plus difficiles à retrouver. La diversité des langages également. Et puis, tout bêtement, l'utilisation du bois pour la création de sculptures. Et malheureusement, le bois résiste mal aux intempéries. Est-ce que l'absence de ces objets archéologiques, finalement, amenuit cette idée de luxe que l'on peut avoir d'une civilisation ?
Oui, c'est surtout ça. En fait, quand on a étudié toutes les civilisations, on s'est aperçu que la base, ça a été tout de même la construction et la pierre. Et quand ils n'avaient pas de pierre, rappelez-vous les Égyptiens, ils en ont fait venir. Bon, les Africains, ils n'ont pas de carrière, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, ils se sont exprimés avec les seuls matériaux qu'ils avaient en abondance, c'est-à-dire le bois, puisqu'il y a beaucoup de forêts, et qu'ils sont passés tout à fait maîtres et tout à fait exceptionnels dans cet art de la sculpture, qui est une forme d'expression pour eux tout à fait naturelle. Mais par définition, le bois est putrescible et on n'a pas tout gardé. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, puis ils brûlent. Enfin, il y a toutes sortes d'accidents qui puissent arriver. Par conséquent, c'est vrai que les traces de la civilisation, de la culture et par conséquent du luxe en Afrique sont beaucoup plus difficiles à trouver.
Alors, au cours de votre livre, bien sûr, dans le luxe, vous parlez des vêtements, des bijoux, des ornements. Pour la civilisation et les cultures africaines, vous parlez des masques et du rôle des masques, justement, dans le luxe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces masques et le rôle qu'ils jouent ?
Oui, on pourrait même essayer de creuser ça davantage. Dans toutes les civilisations, le vêtement est la meilleure carte d'identité parce que les hommes et les femmes sont obligés de se vêtir à cause des intempéries. En Afrique, dans beaucoup de cas, vous n'avez pas besoin de vous habiller. Et par conséquent, il faut bien que vous ayez cette manière de vous présenter. Le vêtement, en fait, c'est votre carte d'identité. C'est ce qui différencie socialement les êtres.
Et on le voit bien d'ailleurs oui. À l'heure actuelle, avec, pour les enfants, avec les marques qui leur permettent de s'identifier.
Alors, les enfants qui portent tous des jeans, autrefois, il y en avait qui avaient des petites robes de smoke ou bien qui avaient des petits pantalons bien coupés. Ben, maintenant, il faut qu'ils se présentent différemment, donc ils ont des masques. Et le masque, c'est la manière de dire « je suis différent de mon voisin ». Si on s'habille tous de la même manière. Donc, on a des masques. Et le masque, c'est sûrement le substitut de son identité.
Vous parlez du masque comme un instrument de domination, de présence vivante des ancêtres, bien sûr. Également un écran protecteur interposé entre la vie et la mort.
Oui, parce que c'est très mystérieux, cette signification du masque. Le masque, c'est un fantasme. C'est aussi, on parlait aussi à certaines époques des bals masqués. On en revient toujours à l'érotisation du luxe. Donc il y a tout dans le masque. Il y a le sexe, il y a la mort, il y a la personnalité. On pourrait disserter toute une journée sur la signification du masque. Ça dit bien ce que ça veut dire. Le masque, c'est la fuite par excellence. C'est à la fois le paradoxe et c'est à la fois la manière de se présenter, puisqu'on a choisi le masque qui est différent de celui du voisin, donc on a fabriqué son masque. Le masque, comme je le disais il y a un instant, c'est l'individualité, mais en même temps, c'est la manière de se cacher. C'est la façon de dire qu'on ne veut pas montrer sa tête, qu'on ne veut pas montrer qui on est, donc c'est une fuite. Puisque l'étymologie du mot masque, c'est bien ça que ça veut dire. Donc, en matière de luxe, et c'est sans doute la seule civilisation qui a porté le masque à ce niveau d'excellence.
Je vous propose de marquer une deuxième pause, Jean Castarède. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons du luxe en Amérique latine, avec notamment la civilisation Maya, Aztèque et Inca. A tout de suite.
Canal Academy vous emmène à bord du bateau Le Pourquoi Pas, rencontrer son illustre propriétaire, Jean-Baptiste Charcot, immortel de l'Académie des sciences. Il découvrira de nouvelles terres et naviguera plus de 30 ans dans les mers polaires. Récit de sa vie en compagnie de Serge Kahn sur Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Suite de notre émission, toujours en compagnie de Jean Castarède, avec qui nous évoquons le luxe et les civilisations sous toutes ses coutures, sous toutes les civilisations, sous toutes les époques. Nous partons, si vous voulez bien, très rapidement, Jean Castarède, en Amérique latine. Plus exactement, nous partons à la rencontre des Mayas, des Aztèques et des Incas. Pourquoi vous êtes intéressé aux Mayas, aux Aztèques et aux Incas ? Justement parce qu'il y a encore beaucoup de mystères dans ces civilisations-là.
Oui, il y a des mystères, mais c'est surtout trois civilisations très différentes. En fait, en réalité, c'est deux civilisations, parce qu'il faut bien distinguer. D'un côté, les Incas, c'est toute la partie méridionale de l'Amérique latine, c'est surtout le Pérou, cette région-là, et ce sont des peuplades qui ont créé une véritable civilisation assez mystérieuse, et sur laquelle on n'a pas tellement d'éléments, d'autant plus qu'elle a disparu assez vite. Alors que vous avez de l'autre côté, autour du Mexique grosso modo et au sud du Mexique, deux civilisations qui, elles, sont très très importantes, parce qu'en plus, elles ont laissé des traces que l'on voit aujourd'hui, et qui sont très mystérieuses parce qu'elles ont laissé en particulier des pyramides qui ressemblent étonnamment aux pyramides d'Égypte. C'est d'une part les Mayas, c'est la première tranche, et ensuite ce qu'on appelle les Aztèques et les Toltèques et les Aztèques, mais enfin la dernière tranche, ça a été les Aztèques. Alors, pourquoi ces deux civilisations? C'est parce que ça correspondait au peuplement de ces régions, dont je vous rappelle qu'ils n'avaient aucun contact avec l'Occident avant la traversée de l'Atlantique par nos navigateurs, et notamment Christophe Colomb, et que c'est même au moment où sont arrivés les Occidentaux, les Européens, que ces civilisations ont disparu. Alors on s'interroge en particulier pour savoir comment ces hommes étaient arrivés, puisque on ne pense pas que le berceau de l'humanité soit né des deux côtés de l'Atlantique. On pense que le même berceau, il est né en Afrique, et que donc les individus se sont mis à essaimer tout autour du globe et ont atteint l'Amérique, on pense, par le pôle Nord, à un moment où une glaciation permettait de franchir les deux continents. Donc, s'ils sont arrivés là, comment se fait-il qu'ils aient eu la même inspiration des pyramides? Tout ça est très mystérieux. Donc, il y a, encore une fois, trois raisons de s'y intéresser. Premièrement, que c'est des civilisations. Deuxièmement, que c'était des peuplades complètement coupées de l'Occident. Et troisièmement, tout ce qui est assez grave, c'est que c'est des civilisations qui ont été complètement stoppées par l'envahissement des Européens. Et à cet égard, de même que nous portons une certaine responsabilité sur le développement de l'Afrique, nous portons sans doute une responsabilité sur l'extinction de ces civilisations qui ont toutes, chacune, au même titre que les autres, des traits luxueux, parce qu'il y a des vêtements qui sont magnifiques, il y a des bijoux qui sont absolument somptueux, il y a des monuments exaltants. Donc on est vraiment au cœur de civilisations.
Vous précisez également, toujours dans le cadre du luxe, un de leurs luxes, c'est leur connaissance, et notamment leur connaissance en médecine, qui leur sert bien sûr dans la vie de tous les jours, notamment pour éviter d'avoir des morsures de serpent qui leur causent de graves problèmes. Oui. C'est notamment leur connaissance qui les a aidés pendant tout un temps.
Oui, parce que ça serait un peu la même chose que l'Afrique, d'ailleurs, à cet égard. Mmh. À partir du moment où vous avez des civilisations qui sont très mêlées à la nature et en même temps assez mal protégées à cause des animaux, des insectes, etc., vous avez deux phénomènes qui se développent. Premièrement, une espèce de sacralisation de tous les rites qui sont soi-disant protecteurs face aux agressions que je viens d'indiquer. Et deuxièmement, à la découverte humaine des fameux médicaments, notamment par les plantes. Parce qu'en fait, au départ, avant qu'on invente les molécules, les médicaments, c'était des plantes. Et eux, comme ils étaient dans une nature particulièrement florissante, ils n'avaient aucune difficulté à avoir les plantes. Et c'est normal que ce soit eux qui aient inventé toutes ces substances.
Je parlais du cacao. Est-ce que le cacao, justement, mais aussi le caoutchouc et l'encens étaient des valeurs marchandes. Est-ce que c'était luxueux pour ces civilisations-là?
Ah oui, mais toutes ces denrées sont luxueuses. On n'en a pas parlé, mais il ne faut pas oublier que le luxe est fondé sur la découverte de produits qui sont rares. Bon, alors l'or, bien sûr, au départ, mais la soie. Et quand vous parlez de ces pays, ben, tous les produits tropicaux, et un des plus critiqués d'entre eux qui est le tabac, rappelez-vous, l'ambassadeur de France de Catherine de Médicis, qui est l'ambassadeur Nico au Portugal, qui découvre le tabac, l'apporte à Catherine de Médicis, qui souffre de migraines, et lui dit que c'est le meilleur moyen de se soigner de ses migraines, donc la nicotine, etc. Tout ça est lié. Enfin, on a les plantes qui sont guérisseuses. Donc c'est des civilisations qui, à cet égard, ont apporté au monde, ça y a aucun problème.
Malheureusement, nous devons déjà quitter ces civilisations pour avancer dans le temps et venir alors à une dénomination un peu particulière, vous allez tout de suite pouvoir nous en dire plus, les briques, enfin briques plus exactement, qui veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine, qui regroupe donc ces pays.
Ce qu'on appelle maintenant les quatre pays émergents, qui sont des pays qui ont un développement très particulier en matière de luxe et qui ont un développement très particulier en matière économique aussi, puisque ces quatre pays, comme vous le savez, jusqu'à la récente crise, étaient caractérisés par une croissance de l'ordre de 10% et qui, compte tenu de l'importance de leur population, faisait que la croissance mondiale n'avait jamais été aussi forte dans l'histoire de l'humanité, puisque quand vous avez plusieurs milliards d'habitants qui font plus de 10%, ça vous donne une moyenne qui est très au-dessus de la moyenne du développement des pays occidentaux. Donc, le Brésil avait une vieille civilisation aussi, moins riche que celle qu'on a évoquée tout à l'heure des Incas et des... Peut-être parce que la colonisation s'y est faite peut-être brutalement, et puis il n'y avait pas forcément de traces. Mais c'est un pays très luxueux, d'abord parce qu'il est immense.
Il y a beaucoup de richesses.
Il y a des richesses naturelles sol, oui. Complètement fabuleuses. Il correspond aux besoins et aux aspirations des peuples évolués, puisque ça va être un grand pays de tourisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 8000 km de plage, ce qui aujourd'hui est quand même considéré comme une des richesses et une des attractions numéro un pour le tourisme. Il y a un climat assez fabuleux. Et puis, il y a chez les habitants une espèce de joie de vivre, une facilité de contact, une habileté à manier les objets, à fabriquer des vêtements, qui fait que c'est un pays qui risque de jouer un rôle très important en matière de luxe.
Mais dans un pays également où, comme dans d'autres, il y a aussi l'accroissement des inégalités. Au Brésil, on a certes ces images de fêtes, de danses, de couleurs, on a aussi ces images de favelas.
Oui, mais ça, de toute façon, j'ai dit au début que c'était ce qu'on appelle des pays émergents, oui. C'est-à-dire c'est des pays qui partent d'une très très grande misère. On peut espérer que le luxe sera un des facteurs de développement, ça ne sera pas le seul facteur. Je pense qu'il y aura, comme vous le disiez, d'abord énormément d'années pour rattraper le retard. On est fasciné par l'expansion de la Chine, sans doute de l'Inde un jour. La Russie, en 10 ans, s'est développée, mais c'est tout de même des pays qui ont un tel retard que, avec ou sans crise, il y a des traumatismes. Et l'inégalité, vous l'avez dit justement, est un des facteurs tout à fait explosifs dans ces pays. On ne sait pas comment on s'en sortira.
Vous avez parlé du Brésil, pour donner un exemple parmi ces pays, donc Brésil, Russie, Inde, Chine. Mais ce sont, j'imagine, des pays qui achètent, qui consomment du luxe pour une mince partie de la population. Est-ce qu'ils sont tous producteurs de luxe ?
Oui, chacun, à sa manière, est producteur de luxe. Bon, il y a la consommation, c'est vrai que c'est complètement réservé à une élite et pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je disais, c'est que chacun peut s'enrichir grâce au luxe. Je l'ai dit pour le Brésil à cause du tourisme. Le jour où il va se développer, ça va être une expansion fabuleuse. Il a une grande richesse par un certain nombre de produits aussi.
C'est valable aussi pour Moscou et Saint-Pétersbourg, par exemple ?
Non, les développements de Moscou et Saint-Pétersbourg sont très différents. Oui. Parce que là, ce sont des développements. D'abord, c'est dans des pays qui n'ont pas du tout cette richesse climatique. Ce sont des pays qui ont plus des traditions de développement et d'histoire qui font qu'ils retrouvent quelques racines qu'ils avaient perdues au moment des soviétiques. Et troisièmement, il y a eu une accélération, si j'ose dire, de l'inégalité russe que l'on ne trouvera dans aucun pays. C'est que la Russie a quasiment le record à la fois par tête d'habitant, par richesse, du nombre de milliardaires. C'est dire si l'inégalité a éclaté d'un seul coup et d'une manière qui est sûrement un peu néfaste à l'équilibre de la société. Donc là encore, le luxe s'est engouffré dans quelque chose qui n'est peut-être pas forcément très sain.
Vous citez en annexe les chiffres
j'ai donné
de chez
Forbes. Le tableau des milliardaires, qui forcément va un petit peu changer avec la crise, d'autant plus qu'on ne sait pas quel va être l'impact de la crise sur ces différents pays. Et je ne sais pas si, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la Russie a un coup d'arrêt très très fort en cette matière. Et beaucoup de choses que l'on avait entrevues il y a 2 ans risquent de ne pas se passer de la manière dont on les avait imaginées.
Comme quoi, par exemple, vous faites référence
Par exemple, la puissance des oligarches. D'abord, tout est en train de changer beaucoup parce que vous avez l'inversion du prix du pétrole qui fait que les équilibres énergétiques sont en train de totalement changer. Deuxièmement, un certain nombre de gens qui avaient un enrichissement à tout va. Je vous rappelle que la bourse de Moscou a été la bourse du monde qui a le plus baissé. Enfin bon, ces gens n'avaient pas forcément placé dans les placements boursiers intérieurs. Mais bon, il y a un exemple très simple. Il y a 6 mois, on ne parlait que des achats des magnifiques yachts de plus de 150 mètres personnels de certaines personnalités que tout le monde a en tête. Eh bien, c'est évident. D'abord, les constructeurs de yachts sont ruinés. C'est un secret pour personne. Et les fameux oligarches n'ont plus commandé les bateaux. Et ils ont d'autres soucis. Ils vont faire autre chose. Mais un certain développement du luxe qui était très clair il y a 1 an, si on m'avait demandé des conseils sur des placements boursiers ou sur comment investir, dans quelle direction investir, j'aurais sûrement donné des conseils que je ne donnerais plus au jour d'aujourd'hui. Donc pour la Russie, tout a changé.
Pour terminer, puisque nous arrivons réellement au terme de notre émission, en 30 secondes, si une personne vous parle du luxe aujourd'hui, quels seraient les 3 adjectifs que vous mettriez sur ce mot « luxe » aujourd'hui, Jean Castarède?
Alors, premier objectif, subjectif. C'est-à-dire que le luxe n'a rien à voir avec la richesse matérielle, avec l'achat, avec l'ostentation. Le luxe est essentiellement une qualité, une qualité d'âme, une qualité de cœur, une qualité de vie. Donc, c'est la première considération qu'il faut prendre en considération. Deuxième adjectif, le luxe est divers et diversifié. Il n'y a pas un luxe, mais des luxes. Moi, vous lirez dans mon livre « Luxe et civilisation » une analyse des 12 secteurs du luxe, et en particulier dans le précédent où j'étais rentré un peu dans le détail. Ce qui concerne le vêtement n'est pas valable pour ce qui concerne le bijou, n'est pas valable pour ce qui concerne la nourriture, n'est pas valable pour tout. Nous avons plusieurs sortes de luxe. Et finalement, le mot « luxe » est un mot qui est un peu fourre-tout, passe-partout, qui n'est peut-être pas forcément très, très bon,
très bien utilisé
et très valorisant. Dernier point, à côté de ce côté subjectif, je dirais qu'il y a des nouveaux luxes à découvrir, qui sont peut-être le luxe des relations humaines, le luxe de la méditation, le luxe de l'espace, le luxe du repos, le luxe de l'intelligence. Enfin, voilà. C'est plutôt dans le qualitatif que je mettrai l'accent au jour d'aujourd'hui pour parler du luxe, parce que ce sont ces vertus qui permettent finalement d'incarner le luxe dans des produits ou des matières.
Eh bien, je vous remercie Jean Castarède de nous avoir donné ce panorama rapide du luxe et des civilisations, donc luxe et civilisation au pluriel, titre de votre ouvrage paru aux éditions Erol en novembre 2008, avec une préface de Jean-Marie Rouard de l'Académie française, précisons-le. Merci beaucoup Jean Castarède.
Puisque nous sommes au siège de l'Académie française, il faut rendre hommage à Jean-Marie Rouard qui m'a fait l'honneur de cette préface.
Merci Jean Castarède, et puis je l'espère à une prochaine fois pour une prochaine émission, un prochain ouvrage.
Merci beaucoup.